Buenos días, bienvenida a Cerro Moravia.
C'est pas du vent.
¿Se puede caminar así las dos oportunidades?
C'est pas du vent.
Y ya es prácticamente así como Moreto pertenece a Moravia.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes bien désemparés face à la violence des phénomènes naturels qui se sont déchaînés cet été sur tous les continents et qui continuent de nous secouer. Au moment où je vous parle, dans le nord-est de l'Inde, des centaines de milliers de personnes sont bloquées sur les toits de leurs maisons ou ont fui vers les hauteurs après de nouvelles pluies torrentielles. Et la disparition de la biodiversité. Demain s'ouvre à Marseille, dans le sud de la France, le Congrès mondial de la nature. Des milliers de personnes vont discuter pendant une semaine des solutions à adopter pour enrayer la destruction de ce qui constitue notre assurance vie. Nous respirons, nous buvons et nous nous nourrissons, trois fonctions vitales grâce à la bonne santé des écosystèmes qui nous entourent. Le reste n'est que secondaire. Alors oui, il faut agir pour le vivant. C'est le nom du festival qui vient de se dérouler à Arles, dans le sud de la France. Plus d'une centaine d'intervenants, des ateliers de réflexion, des projections, des expositions. C'était foisonnant et enthousiasmant. Biologistes, économistes, philosophes, historiens, artistes ou juristes ont échangé à travers des débats de qualité. Cette deuxième édition du festival Agir pour le vivant l'a hissé sur le podium des rendez-vous désormais incontournables pour nous aider à penser nos manières d'habiter le monde. La vision post-colonialiste avec des penseurs africains était particulièrement représentée cette année et j'ai l'immense plaisir de vous en faire profiter. L'économiste et philosophe sénégalais Félouine Sarr et la spécialiste des philosophies africaines Séverine Kodjo-Granvaux sont nos invités.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Félouine Sarr est économiste, philosophe, musicien, écrivain, acteur même, puisqu'il a joué une pièce intitulée « Liberté, j'aurais habité ton rêve jusqu'au dernier soir » au Festival d'Avignon cet été. Il enseigne aussi la philosophie africaine contemporaine à l'université Duke aux États-Unis. Il a cofondé avec l'historien Achille Mbembe les ateliers de la pensée à Dakar. Né à Niodior dans le Siné-Saloum, l'écrivain sénégalais propose à travers ses essais et ses romans de Afrotopia en 2016 à Trace, publié chez Actes Sud cette année, une autre manière d'habiter le monde, réconcilié avec l'ensemble du vivant. C'est donc en toute logique qu'il était l'un des invités phares de la deuxième édition du festival Agir pour le vivant, où nous l'avons rencontré. Bonjour Félouine Sarr.
Oui, bonjour Anne-Cécile.
Pourquoi c'était important pour vous d'être là ?
C'était important parce que je pense que la question du vivant, elle est centrale, elle est réellement importante et que l'on soit amené désormais à ne plus juste penser les sociétés humaines, mais à penser notre inscription beaucoup plus large dans le vivant et à nous dire que nous devons repenser les liens que nous établissons avec le vivant. En règle générale, que nous sommes une partie du vivant et que notre action affecte non seulement les conditions biologiques de notre vie, mais elle affecte le reste du vivant et que nous travaillons à élargir cette, je dirais, conscience. Donc c'est pour ça que je suis venu.
Agir pour le vivant, j'ai envie de dire, c'est le nom du festival, mais c'est aussi, me semble-t-il, l'un des moteurs de vos réflexions, de vos écrits.
Oui, je dirais même avec le vivant, dans le vivant, en réfléchissant fondamentalement à qui nous sommes, et peut-être en sortant d'un rapport de surplomb avec le reste du vivant, qui est en partie responsable de tout un tas de problématiques. Oui, comme ça m'intéresse, il y a quelques années, j'ai publié un petit texte qui s'appelait « Habiter le monde », où je pensais à une communauté du vivant, comment on y travaille. En 2017, Achille et moi, on a organisé les ateliers autour du thème « Conditions planétaires et politique du vivant ». C'est une question qui nous intéresse depuis plusieurs années.
Alors, les ateliers de la Terre sont des ateliers de réflexion qui ont lieu tous les ans à Dakar.
Ateliers de réflexion qui ont lieu tous les ans à Dakar. Et la prochaine édition va s'intéresser aux cosmologies du lien. Comment on repense les liens entre humains, non-humains, les assemblages qui existent. Et comment est-ce qu'on reproduit des cosmologies qui nous aident à améliorer la qualité des liens, quoi. Et donc, oui.
Ça sera en mars 2022 à Dakar. Alors justement, la journée à laquelle vous avez participé, là, c'était sur le nouvel humanisme. L'humanisme, c'est une doctrine qui place finalement la personne humaine et son épanouissement au-dessus de tout. Est-ce que c'est pas finalement un problème de base, ça, de penser que l'humain est au-dessus de tout?
Ben, c'est ce que cette journée interroge. La philosophe Séverine Codio-Granvaux a voulu poser la question. Et je pense que c'est une question importante. À un moment donné, on a considéré que c'était l'ultime ou l'alpha et l'oméga de tout. La personne humaine, son épanouissement, son bien-être, ses droits, etc. etc. Et puis, en cours de route, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas seule et que probablement la centralité de l'humanité, comme postulat philosophique, et le fait que cette humanité ait été pensée au-dessus de tout le reste, en dépit de tout le reste, c'est peut-être ça aussi une des grandes difficultés et qu'il faut réinterroger justement quoi. Le rapport équilibré, le rapport juste de cette moralité du vivant avec le reste du vivant. Et je pense que c'est une question qui doit être posée à nouveau frais. Il ne s'agit pas de faire table rase de toutes les belles réflexions importantes, mais il s'agit vraiment de se reposer la question de notre place et de notre rôle quoi, et en lien avec le reste du vivant. Et c'est absolument important de faire ça quoi. Et peut-être qu'il faut aller au-delà de l'humanisme quoi. Je ne sais pas quel concept il faudrait proposer, mais je pense qu'il faut que l'on se pense comme une communauté des existants avec les autres et avec lesquels on doit fonder des rapports de réciprocité, de bienveillance et de mutuelle fécondité.
Alors l'actualité nous montre que nous sommes au milieu des vivants. On a eu la crise sanitaire avec la Covid-19. Là, on a la publication début août du premier chapitre du 6e rapport du GIEC qui nous rappelle à quel point les activités humaines ont perturbé le climat de la planète. Le réchauffement climatique se fait sentir de plus en plus. Il y a eu des feux, des méga-feux. Certains scientifiques disent « nous sommes entrés dans l'ère des méga-feux cet été ». Dakar actuellement les pieds dans l'eau, c'est pas uniquement à cause du changement climatique, hein, c'est aussi pour des questions de gestion d'infrastructures, mais tout cela montre que notre humanité, elle est rattrapée finalement par le vivant qu'elle a déréglé.
Absolument, et ce qui est intéressant dans le premier chapitre du dernier rapport du GIEC, c'est qu'il n'est plus en train de tergiverser sur le fait que l'action de l'homme affecte les biotopes. Parce que dans les anciens rapports, il y avait encore un débat, est-ce que l'anthropocène, étions-nous vraiment responsables? Est-ce que ce n'était pas de la paléo-anthropologie? Et là, le rapport affirme avec force que nous sommes responsables de ce dérèglement climatique-là. Et de manière concomitante, ça a été la semaine où il y avait ces feux en Californie, en Algérie, dans plusieurs endroits du monde, qui nous rappelaient en fait quoi, que c'était une réalité. Oui, je pense que c'est clair que nous avons déréglé le cycle de régénération du biotope, nous avons déréglé sa marche. Et la question qui se pose pour moi, c'est quels sont les ressorts et les ressources et les leviers sur lesquels on peut encore travailler pour faire en sorte que nous changions de manière radicale et rapide de culture, de comportement, d'attitude à une échelle significative. Et où sont les espaces de mobilisation quoi? Je veux dire, on n'en est plus à se poser la question de est-ce qu'on dérègle le climat. On en est à se poser la question de comment agir, quels sont les leviers pour agir en temps et en heure quoi, et pour ne pas atteindre des seuils qui pourraient être irréversible. Et pour moi, c'est ça la question de l'urgence, c'est les modalités d'action quoi.
Oui, alors justement, sur les modalités d'action, il y a aussi des approches très différenciées en fonction de l'endroit où l'on vit. Le continent africain émet moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre mondial, pour l'instant, hein, parce que c'est un continent qui se développe et dont la démographie est en train d'exploser, mais qui va donc émettre de plus en plus. Mais aujourd'hui, il émet assez peu. Et il fait partie des lieux les plus impactés. Donc il y a une forme d'injustice là qui est liée à tout un passé historique. Comment est-ce que vous lisez ça, vous?
La nécessité de faire monde et de travailler au niveau local. On émet 4% des gaz à effet de serre, mais on fait l'expérience de la perte de la biodiversité et des effets. Et nous sommes moins armés pour y faire face. Nous avons moins de ressources pour répondre à cette situation-là. Donc deux choses. Donc faire en sorte de ne pas nous-mêmes accélérer le mouvement de l'entropie du vivant. Il ne s'agit pas de dire nous ne sommes pas responsables, donc nous aussi, quoi, le droit de nous industrialiser avec les énergies fossiles. Je pense qu'on peut faire le saut des énergies fossiles. On peut aller vers une transition écologique et qu'on a de l'espace pour le faire, puisqu'on n'est pas totalement hyper structuré par les énergies fossiles, même si on a des centrales qui fonctionnent au charbon, électrique, etc., etc. Mais on a quand même de l'espace pour être en transition. Donc je pense qu'il faut le faire et qu'on doit avoir une conscience écologique aiguë, mais en même temps, je pense qu'il y a une nécessité au niveau global et mondial que les plus grands responsables fassent les plus gros efforts, dans tous les sens, des efforts de réduction et des efforts de contribuer à la résilience au changement climatique. Et là, il y a une question d'équité mondiale qui se pose, tu vois, d'équité globale, quoi, de justice environnementale qui se pose, mais d'équité globale. Nous avons du mal à nous concevoir comme un monde. Nous défendons des intérêts micro, des intérêts nationaux, des intérêts continentaux, et nous pensons nos humanités à l'intérieur d'espaces de référence qui sont des espaces qui excluent les autres et qui font que nous ne nous sentons pas fortement en empathie, tu vois, ou bien en co-responsabilité avec des actions que nous prenons ici. Parce qu'il y a le monde dans lequel nous vivons, mais il y a le monde à partir duquel nous vivons. Donc on peut vivre dans un monde qui est l'Europe et vivre à partir d'autres mondes, puisque nous extrayons des ressources, et ne pas nous sentir responsables des mondes à partir desquels nous assurons nos vies ici, quoi.
Et en même temps, il y a aussi cette façon, c'était le titre de votre livre, « Habiter le monde », cette façon d'habiter le monde, elle est façonnée par des imaginaires. Il y a un imaginaire qui a été très destructeur, c'est ce qu'on appelle l'habité colonial. C'est la façon d'habiter la terre avec une logique de prédation au détriment même des populations locales. Cet imaginaire, il est encore très très présent.
Très présent. Malcolm Ferdinand a fait un travail excellent en écrivant un ouvrage sur l'écologie décoloniale et où il montre qu'en fait, quand on a naturalisé autrui, quand les peuples qui habitaient dans certains espaces dits naturels ont été conçus comme naturalisés, je veux dire, on leur a infligé la même violence extractiviste que l'on a infligée à la terre, que l'on a colonisée, quoi, et on les a pris pour des éléments naturels, quoi. Et que l'habité colonial est un habité que l'on continue à avoir dans des espaces. On continue à vouloir répandre, je veux dire, la moralité de l'économie néolibérale dans les territoires, que l'on voit exclusivement comme des ressources, et y compris les gens qui y habitent. Et s'il faut leur infliger cette violence-là, c'est le problème en Amazonie, c'est le problème dans plein d'endroits du monde. Et que nous sommes loin d'être sortis de cet imaginaire-là. Et la question, c'est quelles sont les forces qui peuvent le contrer, quelles sont les coalitions nécessaires et quels sont les niveaux de travail. Quoi. Je pense qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Il faut travailler au niveau des idées, des imaginaires, de la conscience que nous en avons. Il faut aussi travailler au niveau politique et cosmopolitique. Il faut créer des rapports de force qui inversent ce rapport de force-là. Je veux dire. Ça ne peut pas être juste le fait des idées. On voit bien que les idées, elles sont importantes, mais qu'elles mettent du temps à imprégner les sociétés, elles mettent du temps. Et que même ceux qui ont intérêt à ces formes d'exploitation du vivant, ils comprennent ce qui se passe. Ils n'ont juste pas intérêt à ce que les choses changent. Et comment est-ce qu'au niveau global, on les amène à agir de manière beaucoup plus consciencieuse? Je pense qu'il faut qu'on passe aussi de l'idée à la stratégie, je dirais, cosmopolitique. Quoi. Quelles sont les coalitions et quels sont les rapports de force qu'il faut établir pour que les gens reprennent le contrôle sur des territoires, qu'ils puissent décider que les formes d'habiter ces territoires-là ne sont plus admises et que les rapports de force puissent être rééquilibrés. Quoi.
Mais là, il y a des questions de gouvernance.
C'est en fait ça la question. Je pense que la question, elle doit être là. Elle doit être liée aux politiques, à la gouvernance, à qui décide de quoi, dans quel espace, à qui est légitime à le faire, etc. etc.
Mais ça veut dire que vous vous adressez beaucoup à la jeunesse dans vos livres. La jeunesse africaine qui regarde beaucoup encore vers l'Occident, même si une partie commence à comprendre que c'est quand même en Afrique que ça va se passer et qu'il faut miser sur le potentiel africain. Mais en même temps, c'est difficile de se rebeller enfin de contre, par exemple, une exploitation minière à côté de chez soi ou contre des personnes qui se font dégager de leurs terres ou qui ne peuvent plus même.
Il y a des luttes au Mali, il y a des avancées. Je pense qu'il faut documenter ces résistances. Au Burkina, ils ont réussi à virer Monsanto, c'est pas rien, quand même une multinationale extrêmement puissante. Là, j'ai appris récemment que des gens qui luttent pour le foncier au Mali et qui se sont regroupés sont en train de gagner une étape importante dans leur lutte contre l'accaparement des terres. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce défi qui est là sur le continent, mais peut-être, d'un point de vue stratégique, il y a à documenter les luttes, les résistances, les articuler, leur donner de l'écho, faire en sorte que ces mouvements-là sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quelque chose qui se lève, comme une toile de fond. Et peut-être il y a peut-être un activisme à mener, tu vois, au-delà de l'idée. Je pense de plus en plus que orienter la réflexion vers les solutions pratiques, vers que pouvons-nous faire aujourd'hui, à quelle échelle, quels sont les espaces d'action que nous avons, quels sont les lieux que nous pouvons protéger, qu'est-ce que nous pouvons gagner, comment on peut arrêter des processus, je pense qu'il serait important et intéressant aujourd'hui aussi de tourner l'effort là-bas.
Et c'est pour ça que vous dites qu'une civilisation qui va vers le progrès, c'est pas forcément vers le progrès technique, c'est vers le progrès dans la qualité des liens.
Absolument. Je veux dire, la technique est un outil de médiation entre le réel et nous. C'est un artefact, c'est un outil. Ça ne peut pas être une finalité. Et on ne peut pas être dans une situation où tout ce qui nous intéresse, c'est la la qualité avec laquelle nous produisons des gadgets, quoi, qui nous montrent combien nous savons maîtriser la nature et agir là-dessus, c'est un peu enfantin. Je veux dire, il y a un niveau de conscience que l'on doit dépasser, quoi. C'est des outils qui doivent nous aider à rendre la vie beaucoup plus confortable, mais pas au détriment de ce qui fonde la vie. Je veux dire, il y a quand même là quelque chose. Il nous manque une vraie sagesse pour équilibrer la capacité d'agir sur le vivant que nous avons développé. Il faut une sagesse. Et c'est à cette sagesse-là, et finalement, quelle est la finalité? La finalité, c'est bien évidemment la qualité du vivre ensemble. Et les sens et les significations, et une vie riche, pleine, épanouie au niveau global. Et la qualité des liens est absolument fondamentale. Je veux dire, une situation qui dégrade les liens entre ces différentes composantes n'est pas en progrès. Je veux dire, elle n'est pas en progrès. C'est quelque chose d'autre, quoi. Et on ne peut pas être enivré par les outils, je veux dire, en oubliant que c'est des outils. Et je pense que là, il y a un travail que justement, que les philosophes doivent faire, que les gens qui dessinent des sentiers, des perceptions, que les gens qui travaillent sur les imaginaires doivent faire, quoi, pour qu'on reprenne, pour qu'on remette les choses à l'endroit, en fait, quoi, et que les vrais progrès sont des progrès subtils, c'est pas des progrès grossiers. Et le progrès subtil de la civilisation humaine, c'est faire en sorte que les liens que nous établissons avec ce qui nous fait vivre soient des liens de plus grande qualité.
En même temps, tisser des liens, ça me fait penser aux images de l'aéroport de Kaboul. On en est loin.
On en est très loin, parce que là aussi, c'était intéressant, au-delà du drame qui s'y joue, je veux dire, c'est même peut-être intéressant de dire que c'est intéressant, mais en tout cas, ce que j'observais aussi, ces individus qui s'accrochaient à des avions en décollage pour éviter la fureur et la terreur des talibans, donc on sent bien là qu'il y a quelque chose de fondamental, tu vois, et qu'on doit travailler à rendre le monde habitable pour tous. Mais j'ai aussi senti, dans la manière dont la presse a traité ça, le vieux conflit de la civilisation et de la barbarie. Tu vois, il y avait une sorte d'enivrement et de contentement, quoi, de « nous sommes le lieu de la paix, nous sommes le lieu du progrès ». Tu vois, vous voyez ces gens qui sont prêts à monter dans les avions pour venir chez nous, etc. etc. Je veux dire, il y avait ce truc-là, cette petite joie narcissique, tu vois, et qui simplifiait la question, tu vois. Parce que ces talibans, les Américains les ont aidés, quoi. Je suis désolé, quoi. C'est-à-dire que... Et on avait l'impression que c'est eux qui envahissaient le pays. Ben non. Je veux dire, le pays a été sous invasion depuis 50 ans. Je veux dire, l'Afghanistan a été appelé depuis très longtemps le cimetière des empires. Depuis les Mongols, quoi, ils sont envahis et ils résistent à l'envahissement. Mais il y avait une sorte de réduction de la problématique. Civilisation versus barbarie. Mais une barbarie que nous avons nourrie pour nos intérêts, que nous avons soutenue, que nous avons aidé à grandir. Et c'était intéressant de voir que la démocratie, elle ne s'impose pas par des armes. Je veux dire, c'est un processus social profond dans le temps historique. Ce n'est pas par une force militaire qu'on l'impose. Et on a beau imposer la force, elle n'est pas durable. Que la vraie révolution, c'est celle qui structure, c'est celle qui renverse les principes imaginaires. Et que si on impose une révolution par la coercition, une fois que la coercition s'en va, la révolution tombe d'elle-même. Et il faut travailler à des processus longs, éducatifs, éducationnels, civilisationnels, pour que fondamentalement, quoi, les sociétés soient dans leur temps et qu'elles se réforment en profondeur. Et c'est ce que l'Afghanistan tant nous apprend aussi, le cynisme des ambitions des uns et des autres, etc., etc. Des principes que l'on programme, mais on va soutenir des groupes puscules dont on sait qu'ils ne sont pas progressistes, dont on sait qu'ils sont obscurantistes, dans un moment donné, puisqu'on est dans des conflits géopolitiques, etc., etc. C'est tout ce cynisme-là aussi que ça dit. Ce n'est pas juste l'épisode de l'aéroport. C'est intéressant, et ça veut dire aussi que les humains normaux ont une aspiration à une vie normale, à une vie libre, à une vie en dehors de l'obscurantisme. Ce n'est pas parce qu'ils ont des turbans qu'ils ne veulent pas vivre normalement comme tout le monde, quoi. Qu'ils ne veulent pas s'épanouir. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser là-bas aussi.
Le cynisme, il se joue aussi dans les personnes qui sont en Méditerranée. Et qui, ça, c'est le fruit quand même d'une économie que vous dénoncez depuis longtemps dans vos livres, qui est une économie prédatrice, qui n'est pas du tout une économie du vivant, comme celle que vous appelez à surgir. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette économie du vivant prenne le dessus? C'est un vrai défi aujourd'hui.
Quand je prends nos États, quand je prends les États du continent, ils sont pris dans une urgence de répondre à leurs besoins et d'y répondre de la manière dont ils pensent qu'elle est la plus efficace. Donc, c'est-à-dire imiter le modèle dominant. Industrialiser, transformer, créer de l'emploi, etc., etc. Être dans les chaînes de valeur internationales. Et puis, ils ont été acquis à cette doxa néolibérale, quoi, à ces concepts, à ces notions. Et puis
La quête de la croissance
et puis à son imaginaire. Et ils ont du mal à entendre qu'on doit faire différemment et qu'en faisant différemment, on peut atteindre les objectifs, mais de manière beaucoup plus intelligente et de manière beaucoup plus féconde pour le vivant. Ils ont du mal, ils sont pris dans une sorte d'urgence. Ils ne veulent pas tenter la sortie du modèle. Je pense que là-bas, il y a un travail à faire, mais il y a aussi un travail à faire à l'échelle globale de créer des rapports économiques beaucoup plus équitables, des territoires qui sont totalement démunis, que l'on a démunis dans le temps, ben quand les individus ne trouvent plus les ressources pour vivre dans ces territoires-là, ils vont aller ailleurs. Et il serait souhaitable que le voyage soit le fait du plaisir, du désir de découvrir l'ailleurs, pas de la nécessité vitale Et si on ne renverse pas les déséquilibres globaux, on aura des voyages qui relèvent de la nécessité vitale. Et aucune frontière ne pourra arrêter ces voyages-là. Les individus ont le droit à la vie. Et là, la question de la migration devient une question liée au droit à la vie. Et mais on peut mettre en place des mécanismes globaux d'équité économique, de justice économique, pour faire en sorte que les individus circulent par désir, par goût de l'ailleurs, désir de rencontrer autrui, mais que ça ne soit pas une question de vie ou de survie. Et là-dessus aussi, il y a une responsabilité globale. Il y a des institutions multilatérales globales qui doivent faire un travail et qui doivent désarticuler les rapports qui sont articulés pour faire en sorte que, ben, justement, qu'il y ait de l'équité territoriale mondiale là où ils sont, qu'ils puissent accéder à des ressources, bénéficier de systèmes qui leur permettent de vivre décemment, quoi. Et ça aussi, c'est une exigence de notre époque.
Dans Afrotopia, vous expliquez que le continent africain a toutes les capacités pour s'autosuffire et pour éviter justement ces migrations. On ne va pas refaire le livre, on a déjà parlé dans C'est pas du vent, mais quand même, c'est une idée qu'il faut marteler, ça.
Il faut la marteler, je pense qu'il faut la vendre. Il faut faire en sorte qu'elle imprègne les gens qui nous gouvernent et que nos élites qui sont aux commandes, qui sont l'interface entre nous et le reste du monde, soient conscients de cela. Et commence à travailler les capacités, les ressources qui existent, quoi, qui sont dans l'ADN des sociétés, qui sont dans les savoir-faire des sociétés.
Mais ça commence par quoi ?
Repenser nos agricultures, par exemple. Il faut qu'elles nous nourrissent. Repenser la manière dont on est totalement vendu à la multinationale, dont on est totalement soumis aux interventions des multinationales qui arrivent, qui ne payent pas d'impôts, qui ne transfèrent pas autant de technologies que ça, mais on est soumis à un imaginaire doing business, on doit être attractif. Un pays comme le Rwanda refuse aujourd'hui d'exploiter ses énergies fossiles. Parce que si elle les exploite, ce sera à son détriment. Que le contrat du revenu sharing est tellement asymétrique que pendant quelques années, l'essentiel des ressources ira ailleurs. Elle décide d'attendre, d'investir dans de la technologie, dans de la formation. Et d'attendre le moment où elle sera en mesure d'exploiter certaines de ses ressources au bénéfice de ses populations. Ça, par exemple, c'est un choix à faire. De ne pas accepter de prendre quelques royalties, quelques rétro-commissions, mais que l'essentiel de la ressource, la laisser partir, et qu'elle ne bénéficie pas aux générations à venir. Et cette ressource, elle ne vous appartient pas à vous qui gouvernez aujourd'hui. C'est une ressource pour la communauté et la communauté à venir. Donc rien que ça, il y a déjà un changement d'imaginaire. Je veux dire, rien n'oblige nos États à signer des contrats pétroliers qui sont à leur détriment, des contrats gaziers. Ils peuvent dire non, nous refusons. Et nous allons nous inspirer des meilleures pratiques. Nous allons créer un fonds de pension pour les générations à venir. Nous allons investir dans de l'énergie propre, nous allons repenser la transition et nous allons laisser cette ressource-là au bénéfice du plus grand nombre et nous refusons d'être l'objet de prédation. Ils ne sont pas obligés en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mains et les pieds liés dans tout. Il y a aussi une relation, une dimension de la relation qui relève de leur choix. Des choix qu'ils ne font pas et des choix difficiles à faire mais qu'il faut faire. Quoi. Des choix de reporter, de travailler dans la durée, de gouverner différemment, etc., etc.
Enfin, aujourd'hui, dans les faits, il y a beaucoup de prospections pétrolières au large du Sénégal et au large de la Mauritanie.
On rêve tous en 2023-2024 de voir les premiers barils de gaz et de pétrole. La dimension écologique, je ne l'ai pas beaucoup trop entendue dans les débats. Elle apparaissait de temps à autre. Moi, je viens des îles du Saloum, des endroits qui sont menacés, puisqu'on a retrouvé des gisements offshore à Sangomar. C'est là où j'habite. Je sais que les îles d'où je viens, dans l'horizon entre 50 ans et un siècle, elles seraient menacées. L'écosystème sera totalement perturbé. Ça me touche parce que c'est de là où je viens, c'est de là où je suis né. Mais dans mon environnement, cette question n'est pas du tout prise en charge. Les questions qui importent, c'est les royalties, les revenus, l'économie, etc. etc., etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. On a le delta du Niger qui est là pour nous instruire quoi, des effets néfastes. Et si on ne fait pas gaffe, je veux dire, on a toute l'expérience sur le continent africain relative à ces questions-là. On devrait apprendre de ce qui s'est passé ailleurs.
La fameuse malédiction du pétrole.
Oui, apprendre de ce qui s'est passé ailleurs, la fameuse malédiction du pétrole, tout ce que ça induit dans les économies. Je veux dire, on le sait, quoi. Et les enjeux écologiques, on devrait les mettre au cœur et au centre. Et même la perturbation de... On peut passer à une économie de royalties et de rentes, je veux dire, ne plus diversifier le tissu économique, dépendre des cours des matières, je veux dire, ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Je veux dire, toutes ces questions-là, pour moi, n'ont pas été au cœur du débat. Et ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est qu'il y aura un surcroît de revenus à court terme. Et toute l'attention est portée là, quoi.
Et ça, c'est difficile à changer. Alors, vous essayez, à votre niveau d'économiste, de philosophe, de faire évoluer les mentalités. Et vous allez donc organiser en mars 2022 à Dakar les ateliers de la pensée sur le thème de la cosmologie des liens. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, l'idée, ça veut dire que énormément de groupes humains en Afrique, en Amérique latine, en Amazonie, en Océanie, dans l'Europe prémoderne, ont pensé des cosmologies, des manières de se représenter leur place dans le monde, qui mettaient le lien avec le reste du vivant au cœur, avec l'idée qu'il y a une unité du vivant, animalité, humanité, même la minéralité. Il y a des conceptions que la minéralité est elle-même ferait partie du vivant. Et la question qui s'est posée à eux, c'est comment articuler les relations fécondes, mutuellement fécondes, entre les différentes communautés d'existants qui partagent le vivant. Et que ces cosmologies-là, ce ne sont pas des cosmologies de la séparation. Et on n'a pas séparé la nature et la culture, on n'a pas objectifié. Bien sûr, on a un rapport instrumental avec elle. Nous faisons partie de la chaîne du vivant. Le vivant est ce qui prélève des ressources dans son biotope, qu'il métabolise pour continuer à vivre, pour maintenir sa structure. Et c'est un processus qui est dans le vivant. Nous sommes pris dans ce processus-là. Mais ce geste-là n'est pas nécessairement un geste de dévastation. Ce n'est pas un geste qui n'empêche pas le vivant de se régénérer et n'est pas un geste qui n'empêche pas, qui empêche d'articuler une relation mutuellement féconde, tu vois, une relation de croissance mutuelle, tu vois, une relation symbiotique avec le reste du vivant. Et ces cosmologies-là, elles peuvent nous aider à repenser notre place, notre rapport, notre rôle et comment nous sommes des individus ou une composante du vivant qui produit des relations qui nourrissent le reste du vivant et qui n'est pas juste une relation dommageable ou excessivement dommageable, etc. etc. Donc, cosmologie du lien et forme de vie. Donc, ce sont les deux. Et l'idée pour nous, c'est d'aller chercher dans toutes les ressources imaginaires, celles qui sont produites sur le continent, mais celles qui sont produites dans les ailleurs et qui sont intéressantes à regarder, et aussi dans les expériences pratiques. Parce que ces groupes-là, au-delà de le penser, l'ont traduit en pratiques économiques, en pratiques sociales, en pratiques de lien, en pratiques du territoire, le quilombo, etc. Il y a énormément de territoires où ces pratiques sont expérimentées, et c'est des expériences intéressantes à regarder, quoi. Et c'est un répertoire d'inspiration et de solutions aussi.
C'est quoi le quilombo ?
Le quilombo, c'est les esclaves qui ont fui la plantation, qui ont fui le système esclavagiste, ont occupé des espaces de marronnage où justement quoi, ils ont replanté des formes d'agriculture différentes, des formes d'habiter la terre différentes que ce que l'habité coloniale ou l'habité esclavagiste, des formes de soins, des formes de production économique, des formes de gouvernementalité. Et c'est absolument intéressant parce qu'ils ont acquis le contrôle sur ces territoires et ils ont expérimenté des formes autres. Il y a toute une réflexion sur le quilombo, quoi, sur l'économie du quilombo, sur l'économie du lien, sur l'économie du soin, sur la forme de gouvernementalité dans le quilombo, etc. etc. Et ce sont des formes qui peuvent nous inspirer, quoi, lorsqu'on cherche de nouveaux répertoires, de nouvelles manières de faire.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un mouvement de pensée qui est en train de se créer, notamment sur le continent africain autour de ce que vous dites, je ne veux pas dire autour de vous en tant que personne phare, mais est-ce que ces pensées, cette réflexion, cette remise en cause de la vision occidentale de l'économie, d'une pensée propre au continent africain avec ses capacités d'émerger, etc., est-ce que ça bouge ?
Oui, j'entends beaucoup que ça bouge chez les jeunes. Il y a vraiment une remise en cause qui existe et je rencontre énormément de gens, tu vois, qui, obscurément ou de manière claire, le disent, ont compris qu'il faut qu'on change de système et qu'ils se sentent déconnectés avec la manière dont les affaires sont conduites en leur nom. Et ça, je le sens. Maintenant, je pense qu'il faut créer des lieux, quoi, systématisés, qu'il faut cultiver ces espaces-là. Il faut créer des lieux de pensée alternative et de pratiques alternatives.
Mais ça peut être quoi, par exemple ?
Non, je pense que, par exemple, moi, le village d'où je viens, Nyodior, lorsque je l'observe, il est presque autogéré. Les ressources naturelles, les ressources halieutiques, le repos des ressources forestières, le repos biologique, la manière dont on exploite la forêt. Il y a énormément de communautés du village qui s'organisent et qui s'autogèrent. L'État n'est pas très présent. Tu vois. Il a sa préfecture, il a sa petite gendarmerie. Mais dans la vie économique des gens, dans la vie culturelle, dans la manière dont les ressources de la communauté sont gérées, il y a une vieille culture de l'autogestion. Et quand je l'observe, je la trouve intéressante. Je dis, voilà, là, on est loin des grands débats théoriques, mais voici des communautés qui sont prises en charge et qui assure le contrôle sur la production économique, et qui assure le contrôle. Exemple, la communauté a décidé que la forêt est fermée, que la baie de Sonan, là, qu'elle est fermée de telle date à telle date pour assurer le repos biologique. Ce n'est pas une injonction de l'État, ce n'est pas une injonction du ministère de l'Environnement, c'est la communauté elle-même qui s'est organisée. Elle replante des palétuviers, elle replante la mangrove, elle décide de fermer certains espaces, de ne pas les exploiter, puis elle a produit un savoir-faire là-dessus, elle a une conscience écologique là-dessus, elle a produit des récits et des mythes qui classent des forêts. Il y a des lieux où on va dire aux enfants de ne pas y aller parce qu'il y a tel génie, etc., etc. Et quand on creuse dans l'histoire, il n'y avait pas de génie. C'était juste une manière de protéger ce lieu-là, de le mettre hors de l'exploitation et de le laisser se régénérer et de créer un récit et une mythologie dans l'imaginaire qui fait qu'on classe ces espaces-là et puis on les laisse respirer. Et elle a produit des mécanismes, tu vois. Et ce n'est pas le seul lieu. Il y a énormément de lieux comme ça, comme dans le continent, où il n'y a pas encore une grosse emprise et où on peut préserver des choses et puis on peut, à partir de là, reconstruire des choses. Et je pense qu'il y a des expériences qui sont intéressantes, c'est qu'on ne les documente pas assez, on ne les lit pas, Et souvent, on les regarde sous la forme de la tradition et de l'expérience arriérée, de ne pas être assez entré dans le modèle dominant. Donc je pense qu'il y a un travail que nos anthropologues doivent faire sur les formes de gouvernementalité locale, un travail de systématisation, de réflexion, de voir ce qui fonctionne moins, ce qui est intéressant à reprendre, est-ce qu'on peut le faire changer d'échelle, etc. etc. Et que ces processus irriguent les formes de gouvernement de nos sociétés que nous avons aussi. Quoi. Il y a des répertoires qui sont là.
Merci, Félouinsa.
Un grand merci, Anne-Cécile. Un grand merci.
African Revolution began in Haiti a long time ago.
Par l'haïtien Wesley et l'ivoirien Tikenja Fakoli dans ses pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
En cette période d'incertitude où la crise écologique sévit sur tous les continents, nous avons besoin de repenser nos manières d'habiter le monde. Le festival Agir pour le vivant, dont la deuxième édition vient de se dérouler à Arles, dans le sud de la France, participe à ce mouvement en invitant plus d'une centaine de personnalités à dialoguer. Nous en avons sélectionné quelques-unes, rien que pour vous. Bonjour Séverine Kodjo-Granvaux.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie africaine. Vous avez écrit « Devenir vivant », publié chez Philippe Ray. Au festival Agir pour le vivant, on vous a donné une carte blanche pour une journée, un grand luxe. Hein. Vous avez choisi qui vous vouliez inviter et quel thème vous vouliez traiter. Et le thème que vous avez choisi, c'est « Dessiner un nouvel humanisme ». Alors, on va prévenir les auditeurs tout de suite. On ne va pas rentrer dans un cours de philosophie hyper complexe, mais on va expliquer à quel point, finalement, cette notion d'humanisme, elle est extrêmement importante pour penser le monde et comment son évolution peut conditionner énormément de choses. Mais on va commencer peut-être par la base. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on définit l'humanisme ?
Alors, effectivement, j'ai eu cette grande chance d'avoir cette carte blanche au Festival Agir pour le vivant pour réfléchir sur une des questions qui me préoccupe le plus aujourd'hui, qui est celle de penser comment on pourrait renouveler une approche qui inviterait à penser l'humanité à la fois dans son unité, mais aussi dans toute sa diversité, c'est-à-dire repenser ce qui fait le lien entre toutes nos humanités et avec cette idée que quand même, il y a quelque chose qui nous unit et qu'on n'est pas seulement des sociétés en compétition, en concurrence, etc. Mais que, voilà, il y avait quand même un avenir du monde qu'on pouvait dessiner ensemble, avec cette idée peut-être de voir aujourd'hui qu'est-ce qui créerait du désir de commun, de désir de vie en commun et de projet de société en commun. La question de l'humanisme, elle a été très importante en Europe et en Occident à partir de la Renaissance et sous la modernité. C'était l'idée justement de cette humanité commune et de cette humanité partagée. Elle plonge ses racines déjà dans la philosophie antique où on a Terence qui dit que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et donc, s'agissait de repenser cette philosophie, cette approche-là, parce que lorsque l'humanisme se développe vraiment à partir de la Renaissance, on a des philosophes en Europe qui pensent l'unité de l'humain, mais sans les Indiens qu'ils sont en train de coloniser à la même époque, sans toutes les humanités africaines qui ne font pas partie de l'humanité à ce moment-là, et presque sans les femmes, j'ai envie de dire, puisque à l'époque, par exemple, quand sous la Révolution française, on va poser la question des droits de l'homme, ça va être des droits des hommes et non pas des droits des Noirs ni des droits des femmes, par exemple.
À l'époque, déjà, au XVIIIe siècle, il y avait des limites à cette notion d'humanisme. Pour autant, c'est quand même cette vision de l'humanité qui s'est développée, qui a pris de l'ampleur dans les siècles suivants, avec donc cette notion très occidentale de l'habiter de la terre et des rapports humains qui s'est développée jusqu'à aujourd'hui avec les conséquences que l'on connaît.
D'abord, ça a été une philosophie extrêmement efficace parce qu'elle a permis de penser aussi l'idée de la liberté, de l'émancipation. Donc en ça, elle a nourri l'idée des Lumières comme cette période où on pense l'individu et on pense les droits de l'individu à vivre et à vivre dignement, etc. Mais en même temps, cette pensée, elle s'inscrit dans un territoire, une histoire singulière qui est celle de la colonisation, en fait. La société qui produit cette philosophie est une société qui a un empire et qui pratique la traite négrière, puis ensuite va coloniser l'Afrique. Et par ailleurs, cette pensée, elle pense la centralité de l'homme, c'est-à-dire que ce qui fait référence, norme, c'est la question de l'humain. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, cet humanisme-là, il ne peut plus fonctionner dans notre monde parce qu'on arrive à une période où on paye les conséquences d'une manière d'habiter le monde qui exploite la nature, qui domine la nature, justement qui a tout centré sur l'homme pour en faire un maître et possesseur de la nature. Ça, c'était le mot d'ordre, si je puis dire, de la modernité depuis que Descartes a dit que l'homme devait se conduire comme maître et possesseur de la nature. Et en même temps, cela a conduit en fait à une économie d'extraction des ressources naturelles, mais aussi de domination de tout ce qui relève de la nature. Or, justement, ces humanités qui ont été exclues de la grande humanité ont été identifiées à l'état de nature et donc ont pu être exploitées.
C'est-à-dire qu'en gros, cet humanisme occidental, il n'a absolument pas inclus tout ce qui était culturellement différent de la culture occidentale. C'est-à-dire que vous parlez de la colonisation, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, il y avait quand même... Tout le monde n'était pas un humain digne de ce nom, en fait.
Exactement. Même l'Église s'en est préoccupée de savoir, par exemple, à travers ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, si les Indiens avaient une âme ou pas, donc pour savoir si on les classifiait du côté des humains ou du côté des animaux. Et puis, il s'agissait aussi, en fait, non seulement on n'a pas reconnu les cultures différentes, mais on a imposé un modèle qui était le modèle de l'humanisme européen, avec cette idée, un modèle de civilisation qui était la référence suprême et vers laquelle devaient tendre toutes les autres cultures. Et c'est ça a permis de justifier d'un point de vue idéologique l'entreprise coloniale comme étant cette fameuse entreprise qui avait une mission civilisatrice.
Et du coup, cette vision du monde a engendré une façon d'habiter le monde, ce que vous évoquiez, qui est que Malcolm Ferdinand appelle l'habité coloniale, qui est donc une vision très prédatrice aux dépens aussi des populations locales.
Bien sûr, puisque ces populations locales sont assimilées à des éléments naturels. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi les exploiter. Par exemple, les populations africaines sont considérées comme vivant à l'état de nature. Donc, des ressources naturelles qu'on peut exploiter. Et la réduction, la mise en esclavage de ces populations fait qu'on va même utiliser le mot de bois d'ébène. Ce n'est pas des humains qu'on exploite, c'est du bois d'ébène. Et puis après, ça devient des bêtes de somme qu'on va faire travailler dans les plantations. Et sur les plantations, par exemple, les noms des esclaves sont référencés sur les listes des cheptels. Donc on est vraiment dans une appréhension de ces humanités comme étant des éléments de nature, des ressources que l'on peut exploiter.
Alors évidemment, aujourd'hui, avec le recul, on a un regard extrêmement critique sur tout cela. Mais en plus, on se rend compte que cette pensée occidentale dominante, prédatrice, avec cette façon d'habiter le monde extrêmement destructrice. Et donc aujourd'hui, cet humanisme, il montre en début de ce 21e siècle ses limites.
Il montre ses limites, d'abord parce qu'il a exclu de grandes humanités, de grands nombres de populations. Et il montre ses limites aussi parce que, en pensant l'homme comme étant au centre de la Terre, on n'a pas suffisamment pris en attention la question du vivant. Et aujourd'hui, avec la crise écologique que l'on traverse, on voit très bien qu'il faut absolument repenser l'homme dans son implication dans la nature, dans le vivant. Et donc la question qui était la mienne, c'était: est-ce qu'on garde cette idée d'humanisme? Et si on la garde, comment est-ce qu'on la repense pour qu'elle ne soit pas anthropocentrée? Ça veut dire pour que l'homme ne soit pas uniquement le centre de la réflexion, mais qu'il soit au milieu du vivant, un élément du vivant parmi les autres, et puis que ça ne soit pas une notion occidentalo-centrée, c'est-à-dire qui se place uniquement du point de vue de l'Occident, mais qui intègre toutes les autres cultures.
Surtout que, je le disais, le modèle occidental montre ses limites. Aujourd'hui, on a besoin de s'enrichir des autres cultures, et vous aviez beaucoup, je le disais en introduction, vous êtes spécialiste de la philosophie africaine, donc vous avez invité beaucoup d'Africains à participer à cette journée. Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est les personnes que j'ai invitées sont des auteurs que j'aime beaucoup, qui réfléchissent sur ces questions-là, sur ces questions de redessiner un nouvel humanisme, sur des philosophies ou des ontologies du lien, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait lien entre nos sociétés et comment penser des relations qui permettent, non pas d'étouffer l'autre, mais qui permettent à chacun d'advenir et de déployer ses pleines potentialités. Ce qui me semblait intéressant, c'était aussi de faire ce détour par l'Afrique pour revitaliser peut-être une notion philosophique européenne et puis pour voir comment ensemble, finalement, à partir de nos histoires différentes, de nos pratiques culturelles différentes, de nos philosophies, on pouvait essayer de dessiner quelque chose qui nous reliait et d'interroger ce désir peut-être de vouloir, malgré l'histoire, faire monde en commun, c'est-à-dire de partager ce monde-là et de se dire que voilà, on renoue avec l'idée d'une humanité, mais on préserve nos différences aussi et on s'enrichit de nos différences.
Alors, pour avoir suivi ces débats, c'est vrai que c'était passionnant. Vous avez notamment parlé de l'animisme, qui est donc une façon aussi de concevoir le monde, qui peut enrichir notre rapport au monde qu'il y a urgence à repenser.
J'ai essayé de proposer, de réfléchir sur ce que pouvait être un humanisme animiste. D'abord parce que ces deux notions, l'humanisme et l'animisme, qu'on a toujours opposées d'un point de vue anthropologique. Et pourtant, il me semble que dans ces deux philosophies, il y avait des approches communes et des préoccupations communes. Effectivement, c'est ce qui est ressorti du débat, c'est que l'animisme est aussi une sorte d'humanisme, mais qui implique un soin. C'est-à-dire que l'animisme, il y a cette idée que l'humain partage quelque chose avec l'ensemble du vivant. Il ne s'en sépare pas, mais qu'en même temps, il a une obligation qui est une obligation de prendre soin. Et c'est la grande question, finalement, de l'humanisme, c'est quel est le rôle et la place de l'humain sur cette planète. Et aujourd'hui, on voit bien que la grande préoccupation qui est la nôtre, c'est aussi comment prendre soin du vivant, comment entretenir notre planète aussi pour préserver les conditions d'habitabilité de la Terre.
Et cette notion du soin, c'était l'objet d'une de vos tables rondes. Elle a été évoquée longuement parce que c'est vrai que dans beaucoup de civilisations, c'est la façon de vivre ensemble, en fait. C'est ce qui fait sens, c'est-à-dire qu'on prend soin des autres, mais ceux dont on prend soin sont obligés aussi de prendre soin à leur tour de ceux qui ont pris soin d'eux, etc. Enfin, c'est un cercle vertueux et finalement, c'est dans ce cercle-là qu'il faudrait que l'on rentre avec l'ensemble du vivant.
Exactement ce que cette table ronde a montré, à partir de la réflexion des philosophes qui étaient invités, puis aussi des travaux qui se font aujourd'hui sur la question du soin, c'est qu'il y a deux approches du soin. Il y a une approche néolibérale qui fait qu'on va utiliser le soin pour rendre les corps plus performants dans la société de production actuelle. Et puis, il y a d'autres pratiques qui constituent un vivre ensemble autour du soin. C'est-à-dire que les uns et les autres prennent soin les uns des autres parce que l'on sait que l'on vit dans un monde, un environnement. Et si on ne prend pas soin de son environnement, on se dégrade soi-même. Donc, il y a cette idée de réciprocité qui est extrêmement importante, justement, dans l'animisme, où l'ensemble du vivant prend soin de l'ensemble du vivant.
Alors, il y avait beaucoup de philosophes globalement dans ce festival et notamment durant votre journée. Alors, quand on est un auditeur de RFI, par exemple, qui nous écoute discuter, on peut se dire mais c'est hyper intéressant intellectuellement leur dialogue, mais comment ça redescend dans le concret? Quel impact ça a face à la crise écologique d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment utile de réfléchir comme ça?
Pour moi, la pensée, c'est déjà un des premiers modes d'action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir si vous ne pensez pas les conditions dans lesquelles vous êtes. Avoir un projet, c'est aussi penser. Et je crois que les expériences du terrain et les expériences de pensée se nourrissent mutuellement et que c'est toujours une erreur d'opposer la pensée et l'action parce que les unes se nourrissent de l'autre.
Et justement, vous-même, vous n'êtes pas uniquement dans la pensée, vous êtes aussi dans l'action, notamment au Cameroun.
Effectivement, je travaille à un projet qui s'appelle la fabrique de Souza. Souza, c'est une localité qui se situe à 45 minutes à peu près de Douala. Et l'idée, c'était justement de voir comment on pouvait mettre en pratique toutes ces idées de repenser notre lien avec le vivant. Et on a associé un certain nombre de chercheurs comme Felwin Sarr ou Parfait Akana. Et c'est mis en place à la fabrique de Souza sous l'égide, j'ai envie de dire, de la fondation MAM, hein, qui s'occupe de ce projet-là, de développer une ferme agroécologique pilote, de voir comment il est possible de produire une agriculture saine sur le territoire de Souza. On a aussi un travail de recherche de meilleure connaissance du territoire de Souza. Donc on s'est engagé dans un travail de cartographie, qui est une cartographie anthropologique, culturelle, de connaître quelles sont les populations qui vivent à Souza, quelles sont les pratiques qui sont faites, comment l'économie s'enchasse dans ce territoire-là. Et pour ce faire, on a signé une convention avec 3 jeunes doctorants qu'on accueille plus de 6 mois de l'année à la fabrique de Souza, qui travaille sur les questions de préservation du patrimoine thérapeutique et culinaire à Souza, sur les questions de foncier, qui sont des questions récurrentes, problématiques, bien souvent en Afrique subsaharienne, et puis sur la recomposition de la sociologie de Souza, puisque Souza, depuis quelques années maintenant, abrite de plus en plus de populations réfugiées de l'intérieur du Cameroun qui viennent des régions anglophones. Et donc, sur la ferme de Souza, il y a une quarantaine de femmes anglophones qui ont des terres sur lesquelles elles cultivent et elles apprennent à cultiver aussi sans pesticides, de manière plus écologique.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver les vidéos de toutes les conférences du festival Agir pour le vivant sur YouTube. Les liens sont sur la page de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour cela. N'hésitez pas à nous écrire. Nous adorons vous lire. Vous pouvez aussi nous réécouter ou partager nos émissions grâce au podcast. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Littérature sans frontières.